الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفعان الإسلام nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre ce soir, Inch'Allah, les programmes concernant Ya'juj wa Ma'juj. On avait démarré ce signe de Qiyama, un des derniers signes avant la fin des temps, en évoquant la nature de cette race. On avait écarté toutes les thèses et toutes les croyances qui allaient de le sens que Ya'juj wa Ma'juj serait une espèce différente de la race humaine. Comme on avait dit, on avait même évoqué l'opinion de certains savants à ce sujet, qui décrirait au conditionnel Gog et Magog comme étant des personnes, des créatures différentes, avec un physique soit beaucoup plus grand que les êtres humains, et certains qui ont un physique beaucoup plus petit que l'être humain, que les êtres humains, avec des oreilles très grandes, avec lesquelles ils peuvent se couvrir, avec une trompe même, à la place d'une bouche, avec laquelle ils peuvent aspirer les mers, les océans. Donc, il y a certes des textes qui vont dans ce sens, mais on a bien vu la dernière fois, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, que les textes qui donnaient cette description de Ya'juj ou Ma'juj n'étaient pas authentiques. Et ça, c'est extrêmement important dans notre approche avec la religion, dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, c'est toujours rechercher l'authenticité. Il y a des fois, on entend nos parents, nos grands-parents, ils nous racontent des histoires, ils nous racontent des récits, et il y a des fois où on va fonder beaucoup de nos croyances, ou parfois même nos pratiques, sur ce récit, sur ces vécus, sur des messages qui sont transmis, mais nous devons bien réaliser que ça c'est le dîn d'Allah, ça c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, et la religion d'Allah, elle est basée sur les deux wahi, elle est basée sur ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé sur le prophète Muhammad Mustafa alayhi salatu wa salam, le Coran, le wahi, et l'autre wahi, ce qu'on peut appeler également l'autre wahi, ce qu'Allah Azza wa Jal inspire au prophète alayhi salatu wa salam pour qu'ils transmettent aux sahaba par le biais de ses propres paroles, ce qu'on appelle les hadiths. Comme Allah dit le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a prononcé une parole qui venait de lui-même. Jamais le prophète alayhi salatu wassalam a réfléchi à quelque chose, na'oudhu billah, ou a dit quelque chose, excusez-moi qu'Allah pardonne ce manque de respect, sans réfléchir. Une parole en l'air, la wallah. Tout ce que notre prophète alayhi salatu wassalam disait provenait d'Allah. C'est pour ça qu'on appelle les deux wahi, les deux révélations, ce qui vient de la part d'Allah directement avec, subhanallah, c'est la parole d'Allah, avec des termes fixes, c'est le Coran. Et ce qui venait du prophète alayhi salatu wassalam, c'est également de la révélation qui vient d'Allah, inspirée au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il traduisait par ses mots, ce sont là les hadith. Et on avait dit que même le fait de disposer, d'avoir devant soi un hadith, un texte prophétique, n'est pas suffisant. Quand on a un texte prophétique, on doit bien s'assurer que le hadith a une source. Quand on a un verset du Coran, la question ne se pose même pas. Ça c'est Kalamullah, la parole d'Allah, donc ça, la question ne se pose même pas. Mais quand on a un hadith, il est nécessaire de vérifier est-ce que c'est tel sahaba qui l'a rapporté, quand remonte la chaîne de narration, est-ce qu'il y a des narrateurs qui se sont rencontrés dans le temps et dans l'espace géographique, est-ce que c'était possible? Bref, à notre niveau, on ne peut pas faire cette enquête, mais ça, c'était le travail des ulama de Jarh wa Ta'dil, des savants qui ont consacré l'essentiel de leur vie à travailler les chaînes de narration afin d'être sûr que les hadiths qui seront lus, qu'on va écouter, qu'on va mettre en pratique, remonte réellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qui fait la force, la grandeur, la puissance, la véracité de notre dîn. Toute action qu'un mu'min accomplit, quelles que soient les époques, il a la conviction, la certitude, la tranquillité du cœur que cette action-là, elle remonte au Coran ou à la sunna. Ça, c'est une pratique éclairée. Et d'ailleurs, on va voir aujourd'hui que lorsqu'on parlait du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il disait venait d'Allah et que jamais il disait une parole qui venait de lui-même. On va voir aujourd'hui dans l'histoire des Quraysh qui ont posé les trois questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Al-Kahf et entre autres sur Ya'juj wa Ma'juj, sur Dhul-Qarnayn. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas eu la révélation d'Allah. Ce qui prouve bien que le Coran est la parole d'Allah. Autrement, il aurait apporté une réponse. Mais tant qu'il n'avait pas une révélation, il n'avait pas une réponse de la part d'Allah, il ne se permettait pas de parler. Donc ça, on va voir Inch'Allah dans un instant. Alors, ce qu'on avait vu la fois d'avant, il y a, on avait dit à peu près un mois, on avait, donc depuis le début, on avait vu donc la description, ça c'était la dernière fois, la description physique des Gog et Magog. On ne va pas revenir en détail sur ces points, mais on avait dit qu'en résumé, c'est une population, sachant qu'ils descendent de Yafith, fils de Nuh alayhi salam, cette physionomie est plus proche des habitants, on va dire, du Caucase, de la Turquie, des Mongols. Donc, ils ont un physique plus proche que ces gens-là, de ces personnes, avec très souvent des cheveux roux, des petits yeux, des yeux assez fins, on va dire, d'accord, et un visage rond, charnu, on va dire même potelé, et un peuple très fort. Déjà, si on analyse, on voit les personnes qui habitent dans ces régions du monde, il y a des régions très souvent arides, c'est une population physiquement très forte. Mais ces gens-là, ils sont originaires de cet endroit. Mais les Ya'juj et Ma'juj, les personnes qui existaient, donc ils ont existé déjà à l'époque de Dhulqarnayn, lorsque une population précise avait sollicité Dhulqarnayn pour construire un rempart ou un mur ou une protection pour les isoler, pour les protéger de ces personnes. Donc c'était une population qui existait déjà. On peut se poser la question, comment est-ce possible que si on dit que ça fait partie de la race humaine, on n'accepte pas que ce soit des monstres ou autre chose, ce sont des êtres humains, comment est-ce possible qu'ils aient une telle espérance de vie? Et là, on avait donné une thèse la dernière fois, la fois d'avant, on avait dit que certainement ce sont des êtres humains, mais peut-être génétiquement, ils ont gardé l'espérance de vie des gens à l'époque de Nuh alayhi salam, Wallahu a'lam. On a vu que Nuh alayhi salam avait invité son peuple vers Allah pendant 950 années. Et en général, les Anbiya, les prophètes, recevaient la prophétie à quel âge? 40 ans. 40 ans, quel âge de là? Sagesse. Un de nos collègues a eu 40 ans quelques jours et on a vu que ça le touchait beaucoup. Khair, Inch'Allah. Allah lui accorde longue vie. Toujours dire longue vie dans l'obéissance. Très souvent, les gens disent l'aide à longue vie. L'aide à longue vie. Oui, mais d'aide à longue vie, Inch'Allah, on fait bêtise. Al-A'mal bil khawatim. On ne va pas changer de sujet, mais les actions les plus importantes, c'est ce qu'on fait à la fin. C'est pour ça, quand vous donnez doigt à une personne, vous voyez une personne âgée, Allah vous accorde longue vie dans l'obéissance, dans le droit chemin et mourir avec shahada. Avec Iman Khan. D'accord ? Donc on revient. En général, un prophète reçoit la révélation à 40 ans. C'est donc l'âge de la sagesse. Donc on pourrait, ça c'est moi qui m'avance, il faut lire bien les livres de Ibn Kathir, les livres de Tahrir, d'histoire. On pourrait dire que Nuh alayhi salam a vécu donc 950 années de prêche, plus les 40 années avant la prophétie, ce qui nous ramène à un total de 900. Comment ? Je suis allé combien de temps ? Allah Allah, comment on fait pour en la monnaie donc ? 980 ? 10 ans à peu près, on a, mashallah, comptable, on a tout ce qu'il faut, à peu près 990 ans, presque 1000 ans. Et ça rejoint un petit peu, je dis, ça c'est une thèse personnelle, hein, ça n'engage que moi. On ne va pas faire comme, encore, ce sont des thèses plausibles. On a des savants, hein, tu sais de qui on parle, du monde anglophone, des savants du monde anglophone, hein, qui avancent des thèses vraiment farfelues sur les signes de Qiyama, sur Dajjal, sur Gog et Magog, en disant des choses genre, Dajjal, ce serait l'Empire britannique qui existait depuis je ne sais combien d'années. Gog et Magog n'existe pas. Bref, hein, on frôle parfois les aqaïd, les croyances de Mu'tazila, hein, qui écartaient un petit peu. Je ne dis pas que c'est son mode de pensée, mais parfois on s'écarte de tout ce qui est en rapport avec Al-Iman Bil-Ghaib, et ça il faut faire extrêmement attention. Donc nous, ce qu'on avait dit, que le hadith qu'on avait vu les fois d'avant aussi prouvait que lorsque un de ces individus, hein, lorsqu'il mourait, il avait déjà engendré combien de personnes? Si je ne me trompe pas, près de 1000, hein, j'ai plus les hadiths sous les yeux, près de 1000 enfants, hein, qui montaient déjà à cheval, c'est-à-dire qui étaient déjà prêts à se battre. Donc, à travers ce hadith, on a deux indications. Un, l'espérance de vie. Deux, la progéniture, travail dur, d'accord. Et troisièmement, c'est des guerriers. C'est un peuple de guerriers. Ils ne sont pas là pour manger, boire, dormir, ils sont là vraiment pour enseigner à leurs enfants l'art de se battre, parce qu'ils savent qu'ils ont un rendez-vous avec la race humaine. Et ce rendez-vous-là, ils l'attendent tous les jours, régulièrement. Et c'est d'ailleurs le hadith qu'on va lire dans un instant, que régulièrement, ils essaient de creuser ce mur pour forcer, on va dire, le passage, passer de ce monde qui fait partie, on peut dire que c'est une petite poche du Ghaib dans ce dunya. On pourrait dire que c'est une petite partie du monde qui est gérée par les règles du Ghaib, de l'invisible. Parce que nous avons un signe de Qiyama qui est enfermé comme dans un cocon de ce dunya. Tout comme si on va dans une des îles, Allah seul sait c'est où, dans ce dunya, où il y a Dajjal, ben il y a une petite atmosphère de Ghaib également. Des créatures qui font partie du monde du Ghaib, de l'au-delà, donc de croyance yom el akhir et qui sont physiquement de ce dunya, mais que leur rôle n'a pas commencé. Et à partir du moment où ils rentrent de ce monde, leur mission commence. On va dire que là, réellement, c'est le monde, c'est les règles du raïb qui interviennent, qui vont se fracasser dans le monde de ce dunya, et ce sont les règles du raïb, du monde de l'invisible, qui ont le dessus, et la nature des choses va changer. Tout ce que nous avons comme acquis en termes de connaissance du monde, en termes d'espace et de temps, spatio-temporel, tout est basé là-dessus. Les règles de rhétorique et tout, c'est souvent basé sur l'espace, la relation entre l'espace et le temps. On a une certaine cohésion, une certaine logique dans la notion d'espace et dans la notion de temps. Mais on a vu, et on verra, pour ceux qui seront vivants, qu'à l'époque de Dajjal, la notion de temps, c'est autre chose. Un jour qui équivaut à combien d'années ? Combien ? Une année. Est-ce que mathématiquement, ou alors, on va dire sur le plan, on va dire astronomique ou scientifique, c'est possible ? On va dire que ce n'est pas possible. Maintenant, quand il y a des études qui sont faites, qui disent qu'avec, je ne sais pas, on parle d'inversion des pôles, avec plein de choses, plein de théories qu'on a vues surtout ces derniers temps, hein, qui vont sur cette thèse qu'il est possible que le monde connaisse une certaine époque où il n'y aura pas de coucher, pas de lever du soleil. Bref, là, les scientifiques, ils donnent une hypothèse que peut-être que ce jour peut arriver. Tout comme qu'on avait vu au début dans les petits signes de Qiyama, que parmi les petits signes de Qiyama, que la terre, Jazirat al-Arab, la péninsule arabe, redevient verdoyante avec des fleuves anhar. Ce n'est pas juste les petits trucs d'arrosage qui sont en train de mettre dans le désert. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a strictement aucun rapport. Ce sont vraiment comme des fleuves qui reviennent dans la péninsule arabe, dans le désert, et qui redevient verdoyant. Et certains scientifiques disent qu'il paraît qu'avant, à une certaine époque, hein, ces terres arides étaient des terres fertiles, avec une faune, une flore tout à fait normale comme on peut trouver ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de « Aouda ». Que la terre, la péninsule arabe redeviendra. Ce n'est pas qu'elle deviendra, c'est qu'elle, Aoudat Jazirat al-Arab, la terre, la péninsule arabe redeviendra verdoyante avec faune, flore, avec animaux, etc. etc. D'accord ? Donc nous voyons que quand on parle de Qiyama, tout change. Que ce soit la nature, que ce soit les sciences physiques, les règles mathématiques, la notion de temps, la notion d'espace. Quand on voit un homme comme Dajjal qui parcourt le monde entier, dites-moi, si on prend une personne, hein, on prend Mustapha par exemple, on finance tous ces voyages. Tous ces voyages, on paye ses billets, on donne une American Express, ou je ne sais pas s'il prend American Express, ou je ne sais pas quoi, et qu'on lui dit de parcourir le monde entier. Il est impossible. On avait dit que le premier jour, c'est un an, deuxième jour, c'est un mois, troisième jour, c'est une semaine, et ensuite, c'est comme des jours. Et on avait fait l'addition, j'ai plus les anciens cours avec moi, j'ai plus le nombre de jours exact, mais bon, ça ne dépasse pas deux ans en tout cas. On va dire que ça fait à peu près, si quelqu'un a le chiffre en tête, barakallahu fik, on va dire que ça fait à peu près, hein, c'est le code de Dajjal en plus, on va dire que ça fait à peu près un an et demi, hein, si on met 360, d'accord ? Calcule avec moi, plus 30, ça fait 390, plus une semaine, ça fait 397, plus, il reste 1, 2, 3, plus 33, plus du 1, 37, bref, on ne dépasse pas 450, d'accord ? Une personne avec l'avion le plus rapide, Concorde, s'il existe encore, ou je ne sais quoi, ne peut, en moins de 450 jours, parcourir le monde entier. Parce que là, il n'est pas question de continent, ni de pays. Le prophète, alayhi salatu wasalam, précise bien qu'il y a « la yada'u qaryatan », il n'y a pas un village. Il n'y a pas un village. Le prophète ne parle pas, et ce sont des termes qui étaient connus à l'époque, le prophète salam. Différence entre une région, une ville, un wadi, ou tel. Non, on parle bien d'un qaria. Il n'y a pas un village où Dajjal ne mettra pas le pied, à l'exception bien sûr de Makkah et de Medina. C'est-à-dire qu'on parle des îles, on parle des endroits retirés de tous les pays au monde. Ça veut bien dire que le déplacement de Dajjal, c'est un déplacement qui n'est pas humain. C'est un mode de déplacement qui n'est pas connu de la race humaine. Ce n'est pas un avion. Combien il faut y décoller, y atterrir ? Donc on a dit qu'en termes de temps, moins de 450 jours. On pourrait dire que si quelqu'un me fait tous les villages de Chine ou de Russie, je ne sais pas combien de temps il lui faudrait, le nombre de personnes qu'il devrait voir. C'est pour ça que le prophète me dit que chaque personne, quand on parle de lui, attention, n'allez pas le voir, parce que réellement, il ira partout. Donc la notion d'espace également, elle explose. Elle n'est plus respectée. D'accord ? Donc tout ça, c'est alamatussa, tout ce qui est en rapport avec al-rêve. Et donc, par rapport à tous ces changements, à toutes ces perceptions qui seront nouvelles en rapport avec l'invisible, On peut penser que certainement le fait qu'ils vivent aussi longtemps, c'est peut-être qu'ils ont gardé un caractère génétique en rapport avec Nuh alayhi salam, leurs ancêtres. Ce qui fait qu'ils vont vivre tout ce temps. Donc c'est ce qu'on avait expliqué, ça c'était la dernière fois. Et la fois d'avant, on avait expliqué, on avait essayé de déterminer, on avait essayé, on dit bien, de déterminer l'endroit d'où surgira Ya'juj wa Ma'juj. Et on avait dit que si Allah Azza wa Jal n'a pas donné l'emplacement, c'est que le lieu est sans réel intérêt. L'objectif, c'est de prendre conscience que Allah Azza wa Jal a créé cette race, cette créature, et deuxièmement, être conscient qu'ils vont apparaître à la fin des temps, qu'ils vont semer le trouble, et que uniquement les personnes qui seront proches de Isa alayhi salam, de Jésus-Christ, lorsqu'il sera de retour à Isa alayhi salam, et qui auront la foi solide, qui sont avec lui, ces personnes-là seront sauvées des fitnas, parce qu'ils vont obéir Allah Azza wa Jal en obéissant à Isa alayhi salam, qui vont leur donner les bonnes directives concernant la façon de se comporter face à cette population. Maintenant qu'on avait dit que Allah Azza wa Jal nous informe de la création de Ya'juj wa Ma'juj, un des objectifs également est de méditer, de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une race aussi nombreuse. Et on avait vu le hadith une fois, ça c'était au tout début, qui expliquait comment Allah Azza wa Jal a créé les différentes makhlouqat, les différentes créatures, et que 9/10 des créatures, ce sont des anges, des malaïkas. Et que parmi ces 9/10, il y a, si je ne me trompe pas, j'ai plus les hadiths avec moi, à peu près 9/10 parmi cette portion, parmi 90% de la création, parmi 90% de la création d'Allah, oui, il y a encore 90%, on ferait une autre portion, qui ont été créés uniquement pour faire les tasbihat, les louanges d'Allah. Et il y a une portion qui ont été créés par Allah pour des missions. Ça peut être des missions dans les cieux, ça peut être des missions dans la terre ou des missions sous la terre, par rapport aux questions, les gens qui me disent d'accord. Mais sinon, 90% de ces malaïkas ont été créés pour faire uniquement les louanges d'Allah. Et puis, dans le 10e qui reste, si je ne me trompe pas, 90% des êtres humains, ce sont des Ya'juj wa Ma'juj. Ça nous fait comprendre comment ils sont nombreux. Et là aussi, par rapport à ce chiffre qui est inconcevable, ça nous fait comprendre également que notre notion, notre relation d'espace, de nombre, de contenant, de contenu, là aussi, ce n'est pas possible. Parce que si on prend une race qui est 9 fois plus nombreuse que nous, il y a combien d'êtres humains sur la Terre en ce moment? 8 milliards à peu près. Donc là, c'est vraiment, ça fait exploser les calculatrices. Mais quelle Terre, quel continent peut contenir autant d'individus? Et comment est-ce possible que ces gens-là puissent surgir d'un même endroit à un moment donné? Maintenant, on comprend que s'ils sont si nombreux, c'est tout à fait normal qu'ils détruisent tout sur le passage. Ça, l'esprit humain l'accepte. Et ce sera le cas. Ils vont réduire tout ensemble, tout dévorer, même les fleuves, les océans. Ils vont rien laisser. D'accord? Maintenant, sur le plan logique, contenant, quelle terre, quelle région, comment est-ce possible, en deux montagnes, une telle population peut exister? Ça, c'est Allah seul qui connaît. On peut dire que ça fait partie de l'Iman ibn al-Ghaib. La foi en l'invisible, pour ça, nous a expliqué, nous a informé que c'est la situation, c'est leur nombre. Et même si on ne peut pas comprendre, on se dit que si le prophète alayhi salat wa salam nous l'a informé, c'est donc une réalité. Et ce n'est pas pour rien si le fait de comprendre, de décrypter cette histoire de Ya'juj wa Ma'juj, Zul Qarnayn, ça renforce le Iman. Et dites-moi à quel moment ce iman renforcé, ce iman devenu solide par une croyance ferme en l'invisible, alors que rien ne nous amène vers cette croyance, à quel moment ce iman-là nous sera utile et indispensable? Dites-moi, Rachid. Prochaine fois, on t'amène Al-Kawthar. Moi, je pose des questions, Inch'Allah. Alors, au moment, Adisab, la mort? Pas exactement, Adisab. Au moment d'affronter l'antéchrist, Dajjal. Le prophète alayhi salat wa sallam a dit que lorsque, c'est moi qui dis par malheur, mais si vraiment quelqu'un rencontre Dajjal, fal yaqra alayhi, que la personne lise les 10 versets de Al-Kahf. Et les savants disent, pourquoi Al-Kahf spécialement et pourquoi pas Al-Baqara? Vous savez qu'Al-Baqara en général c'est utilisé pour quoi, Rachid? On reconnaît bien mes affaires comme ça. Le diable, paranormal activity, d'accord? Tout ce qui a un rapport avec le monde paranormal, tout ce qui a rapport avec les shayatins, etc. Al-Baqara, ça c'est l'arme du musulman, d'accord? Mais pourquoi pas lire Al-Baqarah contre Al-Dajjal. Et là, les Mufassirins expliquent que Al-Kahf comporte des récits en rapport avec Al-Ghayb. Entre autres, ces jeunes qui ont été dans la grotte, qui sont restés endormis je ne sais combien de centaines d'années, sont réveillés. Ça dépasse la compréhension, la logique, la nature humaine, la médecine et tout ce qu'on peut, on peut accepter. D'accord ? Et donc, la personne qui médite, qui lit Al-Kahf, mais là, les commentateurs du Coran disent que ça nous fait bien comprendre que la simple lecture, et le terme n'est pas réducteur, la simple lecture du Coran n'est pas l'objectif. Le but, ce n'est pas uniquement que le Yawmul Jum'a, je lis Al-Kahf. C'est bien si je l'ai fait, j'ai mis le hadith en pratique. J'aurai une lumière jusqu'au prochain vendredi. Ce genre de fada'il, de vertu, je l'aurai, Inch'Allah. Maintenant, concernant les objectifs à atteindre, les différents objectifs à atteindre par rapport à la lecture d'Al-Kahf, ça dépendra des gens. La personne qui va lire, qui va essayer de comprendre, méditer et décrypter vraiment toutes les histoires qu'il y a d'Al-Kahf et en tirer les vraies leçons, ben son iman va se renforcer. Par rapport à l'histoire de ces jeunes, par rapport, et c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, l'histoire de Al-Qarnayn et Ya'juj et Ma'juj. La personne qui lit ce genre d'histoire, son iman bil-ghaib, sa foi en l'invisible augmente. Sa conviction en Allah augmente. Et la persuasion qu'Allah envoie sa nusra quand il veut, au moment où il veut, et que sa nusra, elle est tamma. L'aide d'Allah, elle est complète et parfaite, même si le monde entier est là contre nous. Et là, on ne parle plus du monde entier. Vous vous souvenez du hadith que le prophète dit que sache que si le dunya, jtama'at ala an yadruk, si le monde se réunissait pour te faire du mal, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Wa'alam, là, on a dunya, on parle du monde entier. Et là, on ne parle plus du dunya, on parle des personnes qui représentent, on va dire, 9 fois au moins la population de dunya. Toutes ces créatures qui sont là pour détruire la race humaine et détruire toute forme de vie. Ils sont là pour détruire toute forme de vie animée et inanimée également. Et toute source de vie. Quelle est la principale source de vie? L'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. D'accord? Ils sont là également pour avoir mer et océan. C'est-à-dire qu'après leur passage, théoriquement, logiquement, il n'y a plus de forme de vie possible. La Terre devient comme Mars, comme je ne sais pas quelle autre planète, où il n'y a pas d'eau. Une race qui est là pour tout détruire, tout anéantir, mais malgré que les asbab, on va dire les intermédiaires, les choses qui sont là, ils sont dangereux, destructeurs. Si Allah décide que la nusra arrive, la nusra arrive. Si Allah décide d'aider la poignée de personnes avec Isa alayhi salam, ben ils seront vainqueurs. Et pas par les armes, pas par l'intelligence, pas par une stratégie de guerre, non, uniquement par la force du iman. Et cette force de foi, elle se manifeste comment? Par le biais des doigts, des invocations. Il suffira que Isa alayhi salam lève les mains et il invoque Allah d'envoyer son aide contre ses makhloukats et Allah envoie son aide par le biais de asbab infiniment petits. C'est-à-dire, l'infiniment petit, en arabe on parle de ad-douda, ce sont des vers. Pas confondre avec l'ourdou. Quand on dit doud, c'est le lait. On boit un verre doud, on boit un verre douda, c'est pas la même chose. D'accord? Par l'intermédiaire des petites créatures, on va dire des limaces, des vers, je ne sais pas comment on peut traduire, qui vont anéantir une race, la race la plus dangereuse qui n'a jamais été créée. Là également, on voit le paradoxe. Nous, on pense que peut-être pour détruire ça, il faut qu'Allah envoie des créatures gigantesques. Ou Allah envoie les anges, les malaïka comme Badr, qui sont venus, qui ont aidé le Nabi Sallam, les musulmans. Non, Allah envoie les plus petites des créatures. Et ça nous rappelle l'histoire de Tayran. C'était pas compliqué ça, mon frère. Tayran à Babil. Lorsqu'Allah envoie les oiseaux pour détruire l'armée des éléphants. Éléphants, pachyderme, énorme, plus grand mammifère terrestre, contre petits oiseaux. Si vous voyez là à Babil, apparemment il y en a encore, c'est des moineaux. C'est pas des vautours ou je ne sais pas quoi. C'est des petits oiseaux qui pouvaient juste avoir une petite pierre dans leur serre, de leur griffe. Mais sur chaque pièce, il y a écrit le nom de la victime. Lorsque cette pierre tombait, ça allait transpercer. On va dire que c'était comme un missile. Qudrat d'Allah par rapport au asbab présent. Ça, c'est iman yaqin, ça. Pareil, Gog et Magog, milliards de milliards, ils ont tout détruit. Rien ne les résiste. Et Allah interdit, à Isa alayhi salam, qui n'est plus prophète à cette époque, Allah interdit à Isa et aux muslimines, aux musulmans, de se mesurer à eux. Parce qu'il n'y a aucune chance de se battre contre ces créatures. Et Allah envoie sa nusra par l'intermédiaire des doudas, de ces petits insectes qui vont les piquer, qui vont les tuer. Ils ont bu tous les océans? Ben Allah va envoyer une pluie salvatrice qui va nettoyer, un peu qu'il y aura des oiseaux qui vont enlever leur camp, une pluie qui va nettoyer et qui va redonner bi'idhnillah la vie à cette terre. Exactement comme après le déluge de Noé alayhi salam, où tout a été nettoyé et il y a une nouvelle vie, une nouvelle, comme les historiens disent, une nouvelle ère de prospérité qui arrive avec baraka, avec bénédiction, une vie de pureté où les gens ne font qu'adorer Allah, une vie de bonheur, une vie exceptionnelle comme on avait vu lorsqu'on avait parlé de Isa alayhi salam, les plus beaux jours de ce dunya où il n'y aura que le bonheur, que le adl, la justice jusqu'à le décès de Isa alayhi salam. Donc la personne qui médite sur l'histoire de Dhul-Qarnayn et Ya'juj et Ma'juj, ça renforce son iman bil-ghaib, sa foi en l'invisible, et donc face à n'importe quelle fitna, et entre autres, le pire des fitna, la venue de l'antéchrist, Ya'juj et Ma'juj, cette personne pourra trouver les arguments et résister à des choses exceptionnelles. Ressusciter les morts, guérir les malades, faire tomber la pluie, faire pousser les végétaux, les arbres fruitiers, les légumes, à une époque où il y aura une famine, une disette de 3 années. Donc vous voyez tous ces paradoxes. Et la solution, c'est toujours dans le Coran et le retour vers Allah, la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était à peu près ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon, le résumé même était un petit peu long. On en a 26 minutes. On va juste aborder un point, parce qu'après il y a un long chapitre sur l'identité de Dhul-Qarnayn. Et très souvent, dites-moi, quand on parle de Dhul-Qarnayn, très souvent, on fait référence à qui? Quelle est la première traduction qui vient? Alexandre le Grand. D'accord? Et Alexandre le Grand était de quelle région du monde? La Grèce, et plus précisément Macédoine. Macédoine, Grèce, etc. Alors que, on verra, sur le plan géographique, ça ne correspond pas avec Dhul-Qarnayn, et par rapport à l'époque également, ça ne correspond pas avec Dhul-Qarnayn. Ça, Inch'Allah, c'est un thème, on va dire, c'est un des thèmes les plus importants de Ya'juj et Ma'juj, parce que c'est l'homme, c'est le seul homme qui a pu, le seul homme qui a pu, on va dire, combattre, résister à Ya'juj et Ma'juj avec l'aide d'Allah. Avec l'aide d'Allah, il a pu construire cette barrière sans que ces populations, sans que ces gens ne puissent l'atteindre ou le faire du mal. Donc ça, c'est un bahat, c'est vraiment un sujet, un thème très important qu'on va garder pour la prochaine fois. Mais il restait un point, parce que comme on avait vu, leur identité, description physique, leurs origines, l'endroit d'où ils vont venir, et ça, je pense qu'on a oublié de le rappeler, on avait la carte de la dernière fois, on a vu qu'ils vont... Ils vont venir de la région plus proche du nord de la Chine, limite avec la Russie. On avait parlé de quelle région du monde? Du Caucase, près de la mer de Khazar, au nord du Caucase, entre la mer Noire et cette mer qui s'appelle Bahrul al-Khazar, que je n'ai toujours pas trouvé la traduction. Mais on voit à peu près dans quelle région du monde ils vont venir. Et on avait vu également que par rapport à la région du monde, par rapport à leur description physique, on a quand même des éléments très forts concernant l'identité de Ya'juj wa Ma'juj. Ce qui nous restait à voir, c'était, avant de démarrer avec Dhul-Qarnayn, Inch'Allah, c'est l'époque. Quand exactement ils vont faire leur apparition? Ils vont faire l'apparition, bien sûr, lorsqu'Allah Azza wa Jal va leur donner l'autorisation, tout comme Ad-Dajjal va apparaître lorsqu'Allah Azza wa Jal va lui donner l'ordre. Parce qu'on avait vu, à une certaine époque, qu'il est présent sur cette île enchaînée et il attend juste l'ordre d'Allah pour apparaître et pour commencer sa mission. Donc les ulama aqida disent que après que après que Isa alayhi salam aura mis à mort l'antéchrist ainsi que l'armée de l'antéchrist, toutes les personnes qui sont avec eux, quelques temps après, Allah va donner l'autorisation à Ya'juj et Ma'juj d'anéantir As-Sadd, d'anéantir le mur qui avait été construit à l'origine par Dhul-Qarnayn. Et le terme utilisé dans le Coran, c'est Dakka. Ils vont l'aplanir, ils vont le niveler pour qu'il puisse surgir. Et là, également, les ulama disent que nous voyons là la qudrat d'Allah, la puissance d'Allah. Tout ce temps, وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient ni détruire le mur construit par Ya'juj et Ma'juj. Et le terme, la traduction qu'on retient, c'est qu'ils ne pouvaient même pas l'effleurer. Et alors que lorsqu'on va voir l'apparition vraiment de Ya'juj et Ma'juj, on va voir la force physique qui est la leur, on se dit qu'ils sont capables de tout détruire. Ils sont capables de tout détruire alors qu'un mur, certes, Le mur a été construit à partir de fer et de nohas et de cuivre. Mais malgré ça, lorsque nous voyons la force de ces gens-là, mais non, c'est parce que jusqu'à cette époque, Allah Azza wa Jal les empêche de franchir le mur. Alors qu'ils creusent ce mur, ils sont parfaitement capables de creuser le mur. Ce n'est pas un manque de qudra, de force physique. Parce qu'on va voir le hadith que tous les jours, ils creusent jusqu'à arriver à la limite où ils se disent que demain on pourra continuer. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'ils ne peuvent plus continuer. C'est-à-dire que la force physique, ils l'ont. Ils ont pleinement la capacité de détruire ce mur. فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ Ainsi, ils ne purent guère l'escalader. Escalader. Est-ce que c'est compliqué d'escalader? Ils sont tellement nombreux, on pourrait dire que celui qui fasse la courte échelle, hein, que voilà, quoi, ils s'en sortent. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا Ni l'ébrécher non plus. Donc, ils pouvaient ni l'escalader, ni l'ébrécher. Et voyez le terme utilisé de le Kahf, c'est pas détruire, c'est l'ébrécher. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont cette force, mais tant qu'Allah Azza wa Jalla ne leur donne pas l'autorisation de franchir, de détruire ce mur, ils ne peuvent pas détruire ce mur. Et tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hadith dans lequel Zainab bint Jahsh radiallahu anha dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé en sursaut la nuit, dit « Waylou lil arab min sharin qad iqtarab » Il dit « Attention, hein, aux arabes, il y a quelque chose de mauvais qui est en train de s'approcher. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en rêve, hein, les Ya'juj et Ma'juj qui étaient en train de, on va dire, d'approfondir, en train de creuser pour essayer d'apparaître, pour essayer de sortir. Et Zainab radiallahu anhu a demandé au prophète d'Allah, est-ce possible que nous soyons détruits un jour alors que parmi nous il y aura des gens pieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que na'am idha, s'il y aura plus de khabath, lorsqu'il y aura beaucoup de mauvaises choses de ce dunya, alors effectivement, même s'il y a une population pieuse, les gens peuvent être détruits malgré la présence de ces gens pieux. Hadith de Bukhari et Muslim. Et en commentaire, les muhadithins disent que le péché, hein, qui, à propos duquel le prophète faisait référence, al-khabath, il dit que al-murad bihi az-zina khassatan. Et quand l'adultère va devenir tellement répandu, là, effectivement, une population, un peuple peut être détruit, même si parmi eux, il y a des gens pieux. Alors dites-moi si ce n'est pas le cas de nos jours, Allah Musta'an. Et de nos jours, on ne parle même plus de zina. On ne parle même plus d'adultère. Parce que l'adultère, en général, c'est quoi? C'est un monsieur et une dame, d'accord? Donc aujourd'hui, on est parti beaucoup plus loin, Allah Musta'an, que l'adultère. La ilaha illallah. On termine avec le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui explique exactement comment est-ce que Ya'juj ou Ma'juj essaie de sortir et comment Allah Azza wa Jalla les en empêche. Il dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, dit... إِنَّ يَأْجُوجَ مَأْجُوجَ يَحْفِرَانِ كُلَّ يَوْمِ Ils creusent régulièrement. حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شَعَعَ الشَّمْسِ Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point limite où il s'en faut de peu pour qu'ils voient les lueurs du soleil, c'est-à-dire proche de leur objectif. قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ La personne qui les dirige dit إِرْجِعُوا On retourne et demain on continuera. Il dit demain on continuera sans dire Inch'Allah ou autre chose. Et le lendemain, lorsqu'ils arrivent auprès de Sedd, du mur qui a été construit par Dhul-Qarnayn, le mur est redevenu comme avant, par la qudra d'Allah. Jusqu'à ce que, hatta idha balagat muddatuhum, c'est-à-dire que lorsque l'heure est arrivée, lorsque le moment est arrivé, le moment fixé par Allah est arrivé, wa arad Allah an yab'athahum 'ala an-nas, et qu'Allah veut maintenant les envoyer, que leur mission commence, ils vont creuser jusqu'à ce moment où ils vont voir le soleil. Et là, la personne va dire « Irji'u, retournez, on continuera demain. » Et cette fois-ci, il va préciser « Incha'Allah » en disant « Incha'Allah ». Et le lendemain, lorsqu'il retourne le mur, et comme il l'avait laissé la veille, et là, ils pourront détruire ce mur et apparaître de ce dunya. Et « Wayukhrijuna 'ala an-nas » ils vont sortir et affronter les gens. « Fayanshifuna al-ma » et là, ils vont détruire tout, ils vont boire les océans, les fleuves, etc., etc. Donc, comme on avait dit, leur sortie est synonyme de destruction, de chaos. Et l'erreur qu'ils vont faire, et ça on va voir avant leur destruction, l'erreur qu'ils vont faire c'est, et là on voit également qu'ils n'ont pas de iman déjà. Et certains savants disent que le Inch'Allah que quelqu'un va dire, soit c'est qu'Allah a voulu qu'il le dise, ou certains disent que c'est une personne qui se souvient de ce terme à l'époque où il avait entendu. C'est quelque chose qu'il avait gardé à l'esprit, c'était un thème qu'il avait entendu et qu'il a répété donc, on pourrait dire machinalement, et que par cela, le doigt a été exaucé. Et donc, leur erreur, qui prouve qu'ils n'ont pas iman, vraiment, c'est que ce sont là une race qui a été créée pour détruire et qui vont aller dans le Jahannam. C'est qu'après avoir, on va dire, décimé la terre et ses habitants, ils vont se dire que maintenant, on a eu le dessus sur les habitants de ce monde. À nous, maintenant, il est temps d'avoir le dessus sur les gens des cieux. Ils vont envoyer leurs flèches vers le ciel. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce terme déjà? Qu'est-ce qui rejoint un petit peu les thèses qu'on avait dit depuis le début? On parle de siham, de flèche. Et très souvent, dans beaucoup de hadiths sur Isa, sur avant lui, sur Dajjal, etc., on avait vu pas mal d'indications qui montrent que les combats, on parle d'épées, de flèches, de boucliers, de chevaux. Et là aussi, c'est une thèse personnelle, ça ne concerne que moi. Très certainement qu'à la fin des temps, les moyens techniques, les moyens modernes, les armes de guerre, les armes de destruction, qui sont massives en fonction de la population qui les détient, toujours les mêmes vannes, et donc ces techniques-là de guerre n'existeront plus à la fin des temps. Très certainement, les combats vont redevenir comme à l'époque des Sahaba, à l'époque du prophète Ali, salatu wassalam, ce sera du corps à corps. D'ailleurs, quand on voit l'armée des musulmans qui va affronter une armée ennemie, on parle de, je ne sais combien, j'ai plus le hadith sous les yeux, on parle de 80 étendards, sous chaque étendard, je ne sais pas combien de milliers de personnes pour arriver à une armée de près d'un million de personnes. Est-ce que de nos jours, ça existe une armée d'un million de personnes? Non, sans intérêt. 100 personnes suffisant pour détruire un pays. Chacun appuie sur le bon bouton et un continent peut être détruit. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, réellement, ce seront là des affrontements comme à l'époque du prophète, comme à l'époque des Roms, des Romains, des Perses, comme dans les époques anciennes, où ce sera le courage, uniquement le courage qui va compter. Une personne dans un bunker ou dans un tank qui appuie sur un bouton nécessite beaucoup de courage? Je ne pense pas. C'est exactement comme les jeunes, un petit peu affaiblis intellectuellement, qui restent des heures et des heures devant leur jeu vidéo à appuyer sur des boutons. Il n'y a pas besoin de plus de courage que ça. D'accord? Donc, on voit bien qu'ils vont jeter leur flèche siham ila sama vers les cieux. Fatarji'u alayhim bid-dami. Et lorsque les flèches retombent, ils retombent avec du sang. Et là, les ulama disent également, ça c'est la volonté d'Allah. C'est le fitna pour eux. Pour qu'ils pensent que réellement, na'oudou billah, ils ont pu vaincre les malaïka et, astaghfirullah, ils ont pu vaincre Allah Azza wa Jal. Et là, ils vont dire, qahran ahal al-ard wa alawna ahal al-sama. On est les meilleurs, on a vaincu les gens de ce dunya et ceux qui habitent dans les cieux. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal va envoyer la destruction sur Ya'juj wa Ma'juj. Donc, on voit bien que c'est après la destruction par le Dajjal et l'armée de Dajjal, lorsque les musulmans vont connaître ces années de bonheur, de baraka, à un moment donné, Allah Azza wa Jal va envoyer, les musulmans commencent à goûter ces années de tranquillité, de réconfort après Ad-Dajjal, Allah Azza wa Jal va envoyer Ya'juj wa Ma'juj, et enfin, après leur destruction, il y aura ces années de baraka. Donc là également, on voit que tout est dans les mains d'Allah. Tout comme on avait vu les histoires de différents prophètes, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, la relation entre les asbab et la confiance en Allah, là également, il y a un obstacle. Allah ne leur permet pas de franchir l'obstacle alors qu'ils peuvent le faire sans qu'Allah ne leur accorde l'ordre. Donc là, nous voyons la relation entre le asbab et la volonté d'Allah. Également, lorsqu'ils vont apparaître, malgré leur nombre, Allah accorde la victoire à ceux qui ont foi en lui sans asbab, cette fois-ci, sans intermédiaire, uniquement par les doigts. Quand ils demandent les doigts, Allah envoie sa nusra, et la nusra, elle vient par des petites créatures. Et comme ils avaient tout détruit, Allah va envoyer les asbab pour que d'une terre aride et morte, la baraka va revenir avec l'eau, avec la vie et donc avec l'espoir. Donc ça, Inch'Allah, on va continuer la prochaine fois avec... Et puis ça c'est des thématiques qui vont revenir parce que là, on a voulu voir l'identité, leurs origines, la notion d'espace, quel endroit, lieu géographique et quelle époque. Mais ce sont des thèmes qui vont revenir quand on va vraiment entrer dans l'histoire de Ya'juj et Ma'juj après cette introduction. Et après avoir vu l'histoire de Dhulqarnayn, Inch'Allah, on va revenir sur ces points avec un peu plus de détails. Et donc, Inch'Allah, pour la prochaine fois, c'est l'identité de Dhulqarnayn, ce qui nous reste à voir. Et deux lieux géographiques, essayer de voir le Maghrib al-Shams et le Matla' al-Shams. Le levant et l'endroit où le soleil se couche, ça correspond à peu près à quelle région du monde? Parce que ce sont là les deux limites qu'a parcouru Dhulqarnayn. Et à partir de cela, déterminer le fameux endroit Bayn al-Saddain, cet endroit entre les deux montagnes, pour voir vraiment où est-ce que Dhul-Qarnayn a construit le mur contre Ya'juj et Ma'juj. On va essayer de voir ça, Inch'Allah, les prochaines fois. Et je pense qu'il y a possibilité quand même de terminer le chapitre de Ya'juj et Ma'juj avant le mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Donc, avant de compléter, il y a, Inch'Allah, une nouvelle très intéressante aussi concernant le concours Hajj 2013. Et donc, c'est la période et les formulaires sont arrivés, Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, à partir de du 25, la date officielle pour démarrer la distribution des formulaires, c'est le 25. On va essayer de commencer à distribuer ce vendredi. Inch'Allah, l'année dernière, on avait à peu près combien de participants? On avait atteint, si je ne me trompe pas, 1500 ou 2000 participants à peu près. Donc, Alhamdulillah, on va essayer, Inch'Allah, cette année également, de montrer notre présence. Maintenant, la nouvelle qui est un petit peu moins réjouissante, ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est encourageant, c'est que pour la troisième année, ben, on est toujours dans le concours avec tous les pays qui participent, Alhamdulillah. Maintenant, concernant le nombre de gagnants par pays, j'ai l'impression que les restrictions qu'il y a pour le Hajj cette année, apparemment même au niveau de ces instances qui organisent les concours, il y a une petite réduction en termes d'invités. Apparemment, l'année dernière, on a eu la chance, la possibilité d'avoir 3 gagnants. Cette année, je ne sais pas si on en a un, c'est bien déjà. Je pense qu'on n'en aura pas énormément. Et ce sera proportionnel à la population musulmane. C'est-à-dire qu'on on s'est renseigné avec les responsables. On a tout de suite compris qu'ils appliquent les mêmes règlements que le visa de Hajj, que le ministère de Hajj. Un quota par rapport au nombre de musulmans. Vous savez que cette année, par exemple, pour la France métropolitaine, j'espère que c'est France métropolitaine, il y a un quota et une même personne ne peut pas faire le Hajj 2 années de suite. C'est-à-dire la limite, c'est un Hajj tous les 5 ans. Maintenant, Inch'Allah, nous n'est pas concerné. C'est-à-dire qu'il y a une restriction due aux travaux, due à tout ce qui est en train de se faire là-bas. Bidnillah, on était à Makkah il y a 4-5 jours. On voit vraiment que c'est difficile. C'est vraiment compliqué. On se demande si les gens arrivent là-bas pendant le mois de Ramadan, 2 millions de personnes, où est-ce qu'ils vont rester? Tellement il y a des endroits qui ont été cassés. Le haram même est amputé d'un quart. Hein. L'image que je retiens, hein, c'est que c'est comme si vous aviez une pièce montée, un grand gâteau, et vous avez coupé un quart, vous avez enlevé. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ils sont forts. Et l'objectif, c'est d'agrandir, de donner une plus grande capacité d'accueil au haram pour, on parle de chiffres faramineux, 6, 7, 8 millions de pèlerins qu'il y a dans les 10 années à venir. Avec un tel agrandissement, ce sera certainement possible. Mais là, dans les mois à venir, comment est-ce que les gens ils vont rester pour le mois de Ramadan? Et d'ailleurs, il y a une notification qui a été faite par le ministère. Je ne sais pas si la nouvelle est arrivée jusqu'à ici pour le mois de Ramadan. Et là, il faudra bien voir même nos organisations sur le plan local. 500 000 visas pour le monde entier, pour le mois de Ramadan. Alors qu'en général, le mois de Ramadan, on a 70% du Hajj à peu près qui est là. À peu près 2 millions de personnes pour le mois de Ramadan depuis quelques temps. Et là, de 2 millions à peu près, ils vont ramener à 500 000. Parce qu'ils sont conscients que, un, le Haram Sharif n'est pas prêt pour accueillir autant de personnes. Et deuxièmement, le nombre d'hôtels, logements n'est pas suffisant. Et les gens ne sont pas d'accord pour aller à Azizia, Koudeï ou des endroits qui sont un peu éloignés. Donc déjà, en termes d'organisation, hein, je ne sais pas comment ils vont faire pour les visas pour le mois de Ramadan, mais ça ne va pas être comme tout le temps. Et donc, la restriction, apparemment, elle est également présente pour cette organisation, pour le concours Hajj. Donc, ils ont réduit un petit peu le nombre d'invités. J'espère qu'après ces périodes de travaux, ils vont redonner, Inch'Allah, les mêmes nombres qu'ils nous donnaient avant. Mais la nouvelle à retenir, c'est que le concours, Inch'Allah, démarre. On va faire démarrer ça ce vendredi jusqu'au 24 juin. Et les formulaires vont être distribués dans les masajid, Inch'Allah. Et les formulaires, on les a vus. Il y a moins de questions. Il y a moins de questions. Il y a 13, alors que les autres années, il y avait 18 ou 19. Je crois que même ça arrivait à 20. 13 questions, mais il y a des questions difficiles. Il n'y a plus que accoucher, oui, non, ou tel sahaba. Il y a des questions, il faut rédiger. Alors, on a un hadith, et quelles leçons vous retenez de ce hadith? Donc, il y a un travail de rédaction à faire. Et là, on ne peut plus faire copier-coller. Comme je l'avais dit, on ne peut plus prendre un formulaire pour toute la famille. Je ne dis pas le nom de famille, hein, pour toute la famille. Par exemple, on mange là à gauche. Là. Toute bonne mangie prend un formulaire qui écrit à 450, on mange qui copie la même question, la même réponse. Là, ce n'est plus possible. Parce que là, il faut dire, à travers ce hadith, hein, on voit tel règlement, tel mas'ala, telle leçon de croyance, ou de, etc. Donc là, ça doit être quelque chose de vraiment... Ils ont eu raison de le faire, personne. Ils ont raison de le faire parce que parfois, on sait pertinemment qu'il y a des copier-coller. Mais là, ça va être quelque chose de plus approfondi. Donc, un mois pour rédiger, pour chercher les hadiths dans les livres traduits ou non. Hein, Allah vous aide, en français ou en anglais. Hein, d'accord. et voir ce que les savants ont dit à propos des hadiths. Donc, ça va être un concours, je veux dire, plus spirituel, plus ilmi, plus en relation avec le ilm, la science religieuse. Et je pense que ce sera très profitable, très intéressant pour notre ilm, au-delà de l'aspect festif et ce qu'il y a comme cadeau. Et puis, la personne qui est désignée pour le hajj, alhamdoulilah, c'est là le taqdir d'Allah. Donc, demandons à Allah Azzawajal de faciliter l'organisation, que ça se passe aussi bien que les deux premières années, plus facilement encore, avec un peu plus d'expérience que notre équipe a acquis durant ces deux années. Mais c'est vraiment une reconnaissance. Ça, c'est très important que la Réunion soit reconnue à part entière, qu'on ne soit plus noyé avec Maurice, Madagascar, tout ça. On est vraiment une entité qui représente quelque chose. On nous reconnaît comme étant une population de le continent africain et que notre voix est entendue. Et que quand il y a la BEIC avec tous les invités de différents endroits, ben, il y a les gens de notre communauté également qui peuvent être présents en tant qu'invités d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal accepte. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.